Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'espace court pour cet entretien auquel vous serez amené à participer, cher public, je vous préviens à l'avance, parce qu'il y a une petite partie de l'entretien qui sera réservée à vos questions. Entretien avec Philippe Claudel, que nous sommes ravis d'accueillir aux Imaginales. C'est pas une première d'ailleurs, je crois que vous étiez venu il y a...
Non, oui, je crois que j'étais venu il y a quelques années, ouais. Il y a assez longtemps je pense.
Un peu après la sortie des âmes grises il me semble.
Ah ben donc ça fait assez
de
longtemps.
De mémoire, ouais. Voilà. On va parler... évidemment de l'actualité de Philippe à travers ses derniers ouvrages. Et puis, pour ceux qui se demanderaient pourquoi Philippe Claudel vient parler aux Imaginales, on essaiera de vous montrer que ce n'est pas totalement illégitime. Au contraire, à travers certains de ses autres livres, dont je vois l'enquête qui est là par exemple, ou les petites mécaniques, on aura quand même des éléments qui normalement devraient nous amener à comprendre que Philippe est... a toute sa place dans la grande famille des Imaginales. Juste un petit mot aussi sur le titre, parce que c'est vrai qu'on cherchait un titre. On m'a dit, il faut trouver un titre pour la table ronde. Bon.
Ouh là là, c'est sérieux ça.
J'ai dit, j'ai un peu creusé la tête, et puis franchement, on est arrivé à ça. C'est pas qu'on soit super satisfait, donc vous inquiétez pas, on va pas faire une veillée funèbre. mais force est de constater quand même que la mort est un des sujets centraux de votre dernier roman. Alors déjà, je vais vous demander comment est-ce qu'on prononce le titre du livre. C'est l'Arbre du Pays.
On peut dire Toraja. En tout cas, c'est pas la rota espagnole, donc il faut éviter Toraja. Les Toraja sont un peuple qui vit dans une île d'Indonésie. Donc, mais ne comptez pas sur moi pour vous faire une leçon de prononciation.
Alors ces Toraja, justement, ils ont une particularité. C'est, j'allais dire, la mort est quasiment au centre de leur vie sociale.
Oui, en tout cas, elle prend une place qui nous étonne, nous occidentaux, puisqu'au fil des décennies, force est de constater quand même que nous avons tendance à évacuer la mort de notre vie, à faire en sorte de ne pas la regarder, de ne pas la contempler en face, et de faire en sorte aussi que tous les rites qui l'accompagnent soient mesurés dans le temps, soient amoindris, au point qu'aujourd'hui, après avoir inventé le fast-food, on pourrait presque... avoir aussi inventé la mort rapide comme ça. Quand je vais à des funérailles, je suis surpris maintenant, même lorsqu'elles ont lieu dans des endroits sacrés comme les églises, puisqu'il y a encore quand même un grand nombre de catholiques en France, eh bien, on se rend compte que l'enterrement dure de moins en moins longtemps. Pour moi qui est enfant de cœur, qui assistait les prêtres quand j'étais gamin sur les mariages, les baptêmes, les enterrements, je suis surpris par cette vraiment... rapidité de nos rites. Alors que les Toraja, eux, c'est l'exemple inverse, si vous voulez, c'est-à-dire que la mort prend une place telle que la vie s'en trouve complètement contaminée en tous ces instants, puisque lorsque l'un des leurs vient à décéder, il faut, pour célébrer les funérailles, rassembler toute la famille. Cette famille fut-elle dispersée sur le globe entier.
Et au sens très large, hein, du
oui,
mot
oui,
famille.
Oui, vraiment une famille étendue, élargie. Et c'est à la famille du défunt ou de la défunte d'inviter tout le monde. Donc, bien entendu, ça suppose des sommes considérables. Il faut économiser ou s'endetter, ce qui fait que cette préparation peut prendre des mois, voire des années. Et pendant ce temps-là, on conserve le corps dans une forme de momification, et corps qui est gardé dans la maison de vie, dans la maison où on habite. Hein.
Et c'est une veillée funèbre qui dure...
Ah oui, elle dure un certain temps. Oui, là, il y a une accoutumance, une habitude à prendre. Et puis alors, quand on a assez d'argent, on construit des maisons pour accueillir tous les invités, on achète beaucoup de bétail pour les sacrifices et on peut enfin célébrer l'enterrement. Donc, vous voyez, quand on va comme moi je l'ai été, mais tout le monde peut y aller, c'est pas du tout un voyage d'aventurier. Hein. Quand on va visiter les Toraja qui habitent dans l'île de Sulawesi, dans l'archipel indonésien, on est frappé par ça, par cette espèce d'omniprésence. Et puis aussi, c'est le départ du livre par des rituels particuliers qui avaient trait aux enfants morts en très bas âge. Puisqu'il y a quelques années encore, cette pratique a été abandonnée maintenant, lorsqu'un très jeune enfant venait à mourir dans la communauté, eh bien on ne l'enterrait pas. On creusait une cavité dans un arbre, on y plaçait le petit corps, on rebouchait le trou avec des branchages et des linges et on attendait que le temps et la croissance de l'arbre fassent en sorte que l'écorce se referme et amalgame, si vous voulez, ce petit corps mort à un organisme vivant qui était l'arbre et dans sa croissance l'amène symboliquement vers le ciel.
Ce qu'on retrouve dans certains contes asiatiques aussi d'ailleurs.
Oui, alors c'est
dans certains films asiatiques.
Il y a beaucoup de, enfin il y a des pratiques, si vous voulez, funéraires qui sont liées à l'arbre. peuvent prendre des visages assez différents selon les cultures. Celle-ci en est un, mais c'est vrai que l'arbre, dans beaucoup de cultures, de civilisations, est quand même un symbole qui fait le lien entre la terre dans son enracinement, le ciel dans son élévation. Et puis, c'est aussi, ça nous désespère souvent, nous humains, c'est un organisme vivant qui a une telle espérance de vie par rapport à nous autres que, et bien entendu, c'est presque une image déjà d'une certaine forme d'éternité.
Le sentiment qu'on a quand on ouvre ce roman, parce qu'on va vous expliquer un peu quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, ce qui se passe après cette découverte des Toraja, c'est qu'on a cette volonté de faire survivre finalement le défunt le plus longtemps possible.
Ben, moi, alors on peut l'interpréter comme on veut, mais moi ce qui m'a intéressé ou stupéfié, même quand je l'ai découvert il y a quelques années, c'était que finalement cette pratique faisait en sorte de faire participer le mort à la vie. Et faire en sorte aussi de nous faire comprendre que la vie est aussi une aventure qui se joue avec les grands absents qui ont compté pour nous. Et ça a été le début d'un questionnement que je prête à mon narrateur et que je me suis fait moi-même. C'est-à-dire que de quoi suis-je fait ? Moi-même, mon corps, mon âme, mon esprit, de quelle matière suis-je fait ? Et quelle place à l'intérieur de moi j'ai laissé à ceux qui ne sont plus là mais qui ont été très importants ? Est-ce que je les porte toujours en moi comme... l'arbre le fait avec ses enfants Toraja, est-ce qu'ils contribuent à me nourrir, est-ce qu'ils vivent à travers moi, hein? Donc comment finalement s'arrange-t-on avec la mort et avec les morts?
Alors, c'est intéressant que vous nous expliquiez ça en utilisant le jeu, parce que votre narrateur vous ressemble beaucoup.
Par certains points, mais vous savez, là c'est une autre question, la question de l'autobiographie. Moi je trouve qu'elle est toujours soit fausse, soit vraie, c'est-à-dire que les livres ne naissent pas encore hors sol comme certains légumes. Ils sont forcément, encore une fois, reliés, enracinés dans un terreau qui est l'humus que fabrique l'écrivain. Et tout est autobiographique. Alors, pour un livre comme celui-ci, qui se passe à l'époque contemporaine, où le narrateur est un cinéaste, etc., le lecteur a plus tendance à me poser la question. Mais finalement, vous citiez tout à l'heure Les âmes grises, ou si on parle du rapport de Brodeck, on ne m'a jamais posé la question de l'autobiographie parce que il se situe dans des périodes un peu reculées ou des géographies qui ne sont pas les miennes, forcément. Mais pour autant, ils sont aussi autobiographiques. Ils parlent de moi. Moi, j'aime beaucoup le distinguo que fait Annie Ernaux lorsqu'on lui pose cette question d'autobiographie. Elle dit, vous savez, il faut distinguer la vérité factuelle et la vérité sensible. Il y a beaucoup de livres, évidemment, qui sont, dans leur vérité factuelle, éloignés de la biographie de l'auteur. Mais sur le plan de la vérité sensible, je pense qu'ils sont tous très, très proches de celle que porte l'auteur.
Alors ce narrateur, il arrive donc dans la cinquantaine, il est cinéaste, il rentre d'un voyage en Indonésie où donc il a découvert cette civilisation très particulière, et là il apprend une terrible nouvelle en rentrant chez lui. Sur son répondeur, il a un message de son producteur, de son meilleur ami. Ils ont sensiblement le même âge, hein, grosso modo,
oui, à peu près,
et
oui.
Cet ami lui annonce donc qu'il a un cancer.
Oui, il lui annonce de façon très très légère. Hein. Oui. Il lui dit, écoute, tu vas rire, j'ai un vilain cancer. Donc, on est tous, là encore, extrêmement différents face à la maladie, la maladie qui nous touche ou celle qui touche nos proches. Et c'est vrai qu'on a tous vu autour de nous des êtres comme ça qui traitent de façon absolument badine et négligeable une maladie grave qui les affecte. Il y en a d'autres qui sont tétanisés, qui sont traumatisés, qui le vivent très mal. On s'invente les stratégies qu'on peut. En l'occurrence, ce producteur qui s'appelle Eugène, lui, a plutôt un rapport extrêmement léger avec sa maladie. Il a toujours tendance à la minorer parce qu'en plus d'être son ami, il est aussi son producteur. Et cette relation m'intéressait aussi à décrire pour le lecteur, la relation qui peut unir quelqu'un qui crée, en l'occurrence un cinéaste, et quelqu'un qui l'aide à créer, en l'occurrence un producteur. Mais le couple elle-même, si on prend éditeur-auteur. Hein. Les éditeurs, les producteurs sont souvent des êtres qui restent dans l'ombre, on ne les connaît pas, on les entend peu. Et pourtant, aucun film, aucun livre n'existerait sans ces femmes ou ces hommes qui sont là pour accompagner celle ou celui qui sent qu'il a en lui quelque chose à dire ou quelque chose à filmer. Donc ça m'a intéressé de montrer ça, cette espèce de double relation, une relation d'amitié, on y reviendra peut-être, et puis une relation professionnelle. Et je pense que cette volonté d'alléger un peu ça, la gravité de sa maladie tient plus au caractère professionnel de leur relation, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'apporter encore plus d'angoisse
au
créateur. Et là, je me suis fortement inspiré de mon meilleur ami qui était Jean-Marc Roberts, qui était aussi mon éditeur, qui est mort il y a 3 ans, qui a vraiment traité son cancer comme une petite rhinite saisonnière, parce qu'il avait, j'allais dire, sous ses ailes presque, des dizaines d'auteurs qu'il ne fallait pas non plus angoisser plus que cela. Donc il a pris beaucoup sur lui.
Et puis voilà, malheureusement, c'est pas une simple rhinite. Hein.
Non, c'est pas un débutant, c'est un vieux filou de cancer, extrêmement aguerri dans toutes ses armes, qui va finir par l'emporter. Ça, il n'y a pas de suspense, on le sait très vite, puisque le livre se joue un peu des temporalités et mêle un peu toutes les temporalités. Il y a pas mal de bons en avant, de retours en arrière, etc. Donc le principe n'est pas là. Le principe, c'est de finalement, entre ce voyage dont on a parlé tout à l'heure et puis l'apparition de cette maladie chez un être cher, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on tombe malade? C'est une question absolument naïve et stupide presque, mais que se pose le narrateur. C'est-à-dire qu'il se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, tel ou tel d'entre nous tombe malade? Qu'est-ce qui fait qu'une maladie s'invite en nous?
Et même plus loin, qu'est-ce qui fait qu'un jour on meurt?
Oui.
Parce que certains des morts dont il est question dans le roman ne sont pas malades. Au contraire, ils sont en pleine force de l'âge parfois, mais même très jeunes, il leur arrive.
Il en vient, à revisiter un peu sa propre vie, et notamment sa propre vie d'amitié, et à se souvenir de figures un peu lointaines, puisque comme vous l'avez dit, c'est un homme qui a passé la cinquantaine, il se souvient d'un ami de lycée qui s'est suicidé à 18-19 ans, il se souvient d'un ami alpiniste, puisqu'il fait beaucoup de hautes montagnes, qui est mort à côté de lui en montagne, donc il se pose ces questions sur ces morts qui surviennent soit brutalement, soit de façon beaucoup plus lente et longue dans nos existences, et encore une fois sur la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est-à-dire que quelle est la place qu'occupent finalement ceux qui ne sont plus là, et en l'occurrence lorsqu'il s'agit de très jeunes morts, eh bien, le narrateur ou nous autres, je crois qu'on peut le constater, ces morts ne vieillissent pas. C'est-à-dire que nous avançons dans la vie, mais nous les gardons toujours sous leur trait de 18 ans, sous leur trait de 25 ans. Ce qui fait que mon personnage, à un moment, a inventé un film dans lequel il a fait vieillir cet ami mort, suicidé à 18 ans. Et il lui a donné les traits d'un vieillard, mais en l'habillant de la même façon qu'était celle qu'il avait toujours eu à cœur de porter, cet ami. Donc une chemise blanche, un pantalon noir et... Et c'est aussi une réflexion sur finalement l'œuvre d'art, qu'elle soit un film ou un livre. Elle nous permet de nous arranger avec la vie, de nous arranger avec le temps, de rajeunir des êtres, au contraire de les faire avancer aux côtés de nous dans l'existence.
Et finalement, ce livre, d'une certaine manière, c'est votre arbre à vous. C'est l'arbre dans lequel vous placez le corps de votre ami.
Bien sûr, c'était aussi une façon de suggérer au lecteur que tous les livres sont des arbres du pays de Raja. C'est-à-dire que nous autres, chacun d'entre nous est un arbre du pays de Raja, qui portons en nous effectivement des grandes présences absentes, que ce soit des figures humaines, mais aussi des moments, des souvenirs, des instants, des lieux, des paysages. On se nourrit de tout cela et... Moi, j'avais vu le projet il y a quelques années, et puis je l'ai abandonné parce que j'en ai trop parlé. Il ne faut jamais parler de ce qu'on fait. C'est la meilleure façon de tuer ce qu'on veut faire. Donc, j'avais le projet d'établir une sorte de génome intime. La recherche nous a permis de décrypter le génome humain. Mais je me disais, mais de quoi suis-je fait? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis comme je suis? Et je m'étais mis à faire des listes pour m'en tenir simplement aux rencontres humaines, de tous les êtres qui avaient contribué par leur travail, par leur fréquentation, leur proximité, leur consanguinité, etc., etc., à me faire moi. Et puis, comme je vous dis, j'en ai trop parlé, donc finalement, j'ai abandonné le projet. Mais tout cela pour dire que ça revient, de toute façon, peu à peu dans d'autres livres, et notamment dans celui-là, sur cette carte d'identité intérieure et sur le fait que quand on se radiographie soi-même, eh bien on voit effectivement qu'on est plein aussi de la présence des autres, y compris des absents.
Alors, pour l'instant, de ce qu'on a dit, on ne peut pas dire que ça soit franchement d'une grande gaieté. Mais ce livre, c'est aussi un livre sur la vie, parce qu'évidemment, mort et vie sont indissociables. Parce qu'il va y avoir tout un tas d'événements. On a parlé de son regard en arrière et finalement de ses souvenirs autour de jeunes amis qui ont disparu. Et puis, petit à petit, alors qu'il est en train, ce narrateur, de retrouver une vie un peu plus normale, même si le souvenir de son ami ne s'estompe pas, il va faire des rencontres. Et il se trouve qu'il y a deux de ces rencontres qui sont extrêmement marquantes et qui sont des personnes, on peut le dire sans être désagréable, qui sont très âgées, puisqu'elles sont presque nonagénaires aujourd'hui.
Bien sûr,
même pour l'une, c'est même sûr. La première, c'est Milan Kundera. Et la deuxième, c'est Michel Piccoli. Pourquoi vous nous parlez de ces deux personnages-là particulièrement?
Alors, c'est vrai que c'est un ouvrage... Il y a un autre axe qui est très important, qu'on a un tout petit peu évoqué, c'est le corps, en fait. C'est-à-dire la relation qu'on a avec son corps. Alors, son corps malade, mais aussi son corps heureux. le corps amoureux, le corps jouissif, le corps jouisseur, le corps travaillé par le temps, la patine du temps. Il y a des pages où le narrateur compare presque mentalement comme ça les souvenirs qu'il a de son ex-femme mais avec laquelle il a toujours des relations très fortes, qui a son âge grosso modo, et puis d'une très jeune femme qui rentre dans sa vie. Il compare ces deux corps, il dit que finalement lui plaît plus le corps de la femme qui a plus de 50 ans parce que sur la douceur de sa peau, cette peau un peu fatiguée, il lit une histoire, il lit des émotions, il lit des heures, il lit des sentiments, etc. Alors que il lui dit la peau des très jeunes femmes est une pierre polie, elle est trop parfaite, elle ne dit rien. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été fasciné par les corps de personnes âgées, les visages de personnes âgées. J'essaye d'en filmer au cinéma, c'est peu fréquent en fait, parce que le cinéma, comme c'est un art commercial, a toujours tendance à favoriser une représentation de l'être humain qui le satisfait et surtout qui ne l'angoisse pas. Donc il est très difficile par exemple de filmer... de monter un film sur des personnes âgées. Anneke a pu le faire avec Amour, sur ce couple incarné par Emmanuelle Rivard, la voisine de Remiremont, oui. et puis Jean-Louis Trintignant. Mais Anneke a réussi parce que c'était Anneke et qui sortait d'une Palme d'Or. Et même là, puisque je connais bien l'histoire, parce que c'est aussi ma productrice, ça a été très difficile à monter. Le cinéma privilégie la jeunesse et une sorte de perfection des corps, quoi. Alors, ce livre-là qui traite du corps dans tous ses états, c'est vrai qu'à un moment, ça m'intéressait, si vous voulez, de prendre deux grandes figures, à la fois du temps, de l'âge, mais aussi de la culture, en cela où... il me semble que Michel Piccoli est l'acteur par excellence, c'est quelqu'un qui a une filmographie exceptionnelle, qui a fait ce voyage dans le cinéma européen. Je défie quiconque de trouver un mauvais film fait par Michel Piccoli, alors que pour d'autres grands acteurs, c'est possible. Lui, vraiment, a fait des choix de carrière qui sont remarquables. Et puis, j'avais besoin aussi de prendre, une grande figure de la littérature européenne, que le narrateur puisse, en tout réalisme, pouvoir croiser dans un café parisien. Et bon, j'ai pris Kundera, qui à la fois a cette ampleur, a cette envergure européenne, a ce passé aussi, ce passé dans un pays du bloc de l'Est, tout ce qu'il incarne aussi en termes d'apport au roman contemporain. Et puis un personnage qui est à la fin de sa vie, ce qui permettait une réflexion sur le corps de l'écrivain. Le corps de l'écrivain, finalement, on s'en fiche complètement. Le corps de l'écrivain, quand c'est un grand écrivain comme Kundera, c'est son œuvre. Donc lui aura beau mourir, finalement, son corps est immatériel et éternel. En tout cas, appelé à une postérité sans doute certaine.
Il se dégage de ces deux personnages quand on les... Ah, je parle de personnages parce que c'est à l'intérieur du livre, après. Mais il se dégage d'une immense sagesse, j'ai trouvé, quand on lit votre livre.
Oui, alors ces deux personnages, en tout cas Piccoli, c'est vrai que moi je le connais un petit peu, Kundera je connais moins, j'ai croisé quelques fois, mais Piccoli c'est quelqu'un, oui, enfin, et d'autres comédiens comme ça je connais qui sont à la fin de leur vie, à la fin de leur carrière, sont des êtres qui sont adoucis, enfin qui dégagent comme ça une forme de sérénité, d'aspect absolument paisible et extrêmement réconfortant. Donc c'est vrai que ça renvoyait aussi à une sorte de douceur que je voulais dans le livre, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que ça commence quand même sous des auspices un peu graves, la mort, la maladie, le cancer, mais très vite on se rend compte, et je me suis rendu compte en l'écrivant, parce que ce qui me plaît c'est d'être complètement débordé par ce que je fais, de ne pas avoir de plan préconçu. Mais je me suis aperçu que c'était surtout un livre de vie, un livre de célébration de la vie, un livre qui allait vers le vivant, qui essayait d'explorer le vivant dans tous ses états. À un moment, le narrateur se pose la question, quels sont les degrés du vivant? Quel est le plus haut degré du vivant? Qu'est-ce qui me rend le plus vivant possible? Donc voilà, c'est un livre de lumière, de sérénité. Mais on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait de l'occultation de la mort dans nos sociétés contemporaines occidentales, c'est pas le meilleur moyen de vivre en paix avec elle. Je crois que c'est pas pour rien que est cité de nouveau Montaigne. C'est vrai qu'à un moment dans l'histoire de la pensée européenne, on a eu un rapport avec la mort qui était peut-être un peu plus direct, un peu plus frontal, et qui permettait justement d'apprécier davantage la vie. Lorsqu'on en sait la fragilité, la brièveté, etc. Mais il me semble qu'on est aussi victime, et là on en vient à des sujets, j'allais dire, qui sont plus en rapport peut-être avec les imaginales ou avec le transhumanisme, etc. On a tellement développé finalement l'espérance de vie dans nos sociétés contemporaines, dans les pays riches et protégés, qu'on est presque dans une sorte de désir inconscient d'évacuer la mort, ou en tout cas de se dire qu'un jour, effectivement, on arrivera à tuer la mort. Elle n'existera plus. Et ce qui fait que quand elle survient encore, elle nous paraît obscène. Quoi. C'est-à-dire qu'on on a gagné tellement de terrain, c'est quand même... il est bon de le rappeler, même si on le sait, mais l'espérance moyenne d'un Français au moment de la Révolution française, c'était une trentaine d'années quand même. Donc là, on est à peu près autour de 80, vous vous rendez compte, en l'espace de deux siècles, et même si on prend le seul XXe siècle, il y a une progression considérable. Donc c'est vrai que du coup, la mort nous paraît l'intruse par excellence qui conviendrait de chasser parce qu'elle nous paraît obscène.
Alors vous avez fait la transition avant moi, mais c'est vrai qu'on y vient, puisque déjà à travers ce roman L'Arbre du Pays Toraja, on a cette présence de la science-fiction qui apparaît, puisque ce réalisateur que l'on suit est en train de travailler sur un scénario qui est un film de science-fiction, ouais. dans lequel il espère donner le rôle à Michel Piccoli, on va dire d'une intelligence artificielle.
Oui, c'est une fiction, enfin c'est une science-fiction, mais assez proche, hein, une anticipation de quelques dizaines d'années finalement, où dans l'histoire, l'état de la robotique est tel que finalement chaque individu peut se payer un robot qui a une apparence humaine absolument stupéfiante, hein, mais qui est doté de capacités de mémoire phénoménales. Et généralement, donc, tout le monde en achète un, ça ne représente pas une somme considérable, chacun le choisit jeune et beau. Donc homme ou femme, modèle homme ou modèle femme, mais jeune et beau. Et là, le personnage principal du film, lui, a un autre désir. Il le choisit très vieux, avec un aspect du très vieil homme. Et ce qui étonne déjà le gouvernement, qui surveille un peu tout ça. Et puis le deuxième étonnement, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il fait tourner nuit et jour les ordinateurs internes de ce robot. Et il emmagasine dans ses ordinateurs toute la mémoire du monde. Et là, ça devient insupportable. Ça devient insupportable pour le gouvernement qu'un seul individu emmagasine toute la mémoire du monde sur un ordinateur en plus qui a une apparence de vieil homme. Donc il est en train de réinventer, on peut dire, Dieu, et c'est ce rôle-là qu'il veut confier à Piccoli. Piccoli qui est très heureux parce qu'il lui dit « Bon, j'ai déjà joué un pape, mais finalement, Dieu, je ne l'ai pas fait encore et j'attendais ça depuis... »
Surtout que son pape était quand même un peu particulier.
Oui, oui, oui. Bah,
un pape qui ne voulait pas être pape.
Bah, c'était un pape prémonitoire quasiment quand même, parce que Moretti, sur ce coup-là, c'était quelques
il
années quand même avant le retrait de Benoît XVI. Ouais, oui, il avait de la perspicacité, mais c'est un pape qui doute. Moi, je me suis repassé le film il n'y a pas longtemps parce que j'aime beaucoup le cinéma de Moretti. Et c'est vrai que bon, c'était très intéressant. Alors voilà. Donc il y a cette anticipation légère, ce recours à la science-fiction, mais c'est une fable qui, malheureusement, qui n'en est pas une, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, toute la mémoire du monde, elle est sur des disques durs. Il y a un certain nombre de sociétés qui l'accaparent, qui la stockent. Tant que ces sociétés, finalement, sont dans un espace libéral et démocratique, ça ne pose pas trop de danger. Ni de problème, mais évidemment, à partir du moment où un jour ces big data seraient détenus par des régimes qui seraient un peu moins libéraux, ça poserait énormément de problèmes. Puisqu'ils posent des problèmes sévères, et j'en suis moi-même, je pense qu'on l'est tous plus ou moins, mais moi je me rends compte que ça m'affecte terriblement, c'est que maintenant je ne me fatigue plus à retenir, moi par exemple.
Ce
que je retiens, c'est la façon dont je vais pouvoir retrouver
Exactement,
l'information.
Oui.
C'est pas l'information.
C'est ça.
Je me dis, mais je peux la retrouver de telle façon. Donc ça, c'est terrible. Vous vous rendez compte, je suis en train de vendre, de solder mon cerveau.
On est à un passage d'évolution, finalement.
Ah oui, 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 c'est-à-dire que finalement, la personne compétente maintenant devient celle qui est capable de savoir où aller chercher l'information et pas forcément celle qui la détient de prime abord et en premier lieu dans son cerveau.
Alors aussi, ce personnage dans ce film, incarné par Michel Piccoli, il représente aussi une certaine forme d'immortalité qui vient contraster finalement avec toute la première partie habitée par la mort.
Oui, oui, parce qu'à un moment, donc le narrateur qui se pose ces questions un peu naïves dont je parlais tout à l'heure, pourquoi on tombe malade, etc., il frappe aux portes de différents chercheurs et il rencontre une jeune femme qui lui explique la théorie qu'elle a développée sur le rapport qu'on peut entretenir avec notre corps. Elle lui dit finalement que selon le moment de notre vie, on a des relations extrêmement différentes. Il y a une sorte de renégociation qui se fait d'âge en âge. Quand on est très jeune enfant, eh bien, ce corps dans lequel on est enfermé, duquel on ne peut pas sortir, cet habitacle qui nous a été donné, il faut apprendre à le piloter. Il faut apprendre à le maîtriser, on apprend à saisir, on apprend à se nourrir, on apprend à marcher. Et puis ensuite, après cette période d'apprentissage et d'apprivoisement, il y a une longue période pendant laquelle finalement le corps répond à tous nos besoins, à tous nos désirs. Il se fait presque oublier. elle parle de phase du corps amical. Il est toujours prêt, toujours là, jamais malade, ou quand il est malade de façon bénigne, eh bien c'est plus pour nous rappeler que généralement il fonctionne très très bien. Donc il y a cette période assez longue qu'elle appelle le corps amical, et puis elle lui dit, si vous commencez à vous poser des questions sur votre corps comme ça, c'est que vous êtes entré dans l'autre phase qui s'appelle la phase du corps inamical. Une petite douleur, une raideur, une vue qui baisse, un essoufflement, soudain nous font comprendre que le maître, ce n'est pas cette espèce de belle conscience dont on peine à définir les contours, mais c'est cet habitacle qui peu à peu va se rappeler à nous, va dysfonctionner. Donc elle lui dit, ben, vous êtes dans la phase du corps inamical, ensuite il y a une phase qu'on peut appeler celle du corps hostile, puis ennemi, puis un jour le corps décide de fermer l'interrupteur et que la conscience...
C'est lui qui gagne la partie.
que la conscience le veuille ou non, c'est quand même lui qui gagne.
Voilà, alors on a... parler de ce dernier roman en date, L'Arbre du Pays Toraja. On vous a peut-être pas forcément convaincu sur le fait que Philippe Claudel ait sa place aux Imaginales. On va essayer d'aller un petit peu plus loin maintenant et de vous montrer qu'effectivement, il a des romans qui pourraient tout à fait être aux côtés de nos auteurs de science-fiction et de fantasy. On va commencer par L'Enquête, qui est présent sur la table. Alors, c'est un roman très étrange. Il n'y a pas de nom de personnage, on ne sait pas où on est, on ne sait pas quand, on est entre Kafka et Orwell.
Oui, il faut rappeler un petit peu le contexte, hein. Le livre il paraît en 2010, je dois l'écrire dans les années peut-être 2008-2009, je ne me souviens plus exactement. À ce moment où, souvenez-vous, de grandes entreprises françaises, mais pas seulement, sont touchées par des vagues de suicides, des salariés se suicident sur leur lieu de travail, hein, la plupart du temps. Donc... le suicide, c'est un acte brutal, c'est une mort choisie, mais c'est aussi une désignation que fait la mort. C'est-à-dire que généralement, le mode opératoire et le lieu où on le fait interrogent les vivants. C'est une façon aussi de les interroger parfois frontalement, de les responsabiliser aussi. En l'occurrence, se suicider sur son lieu de travail, c'est bien entendu incriminer le travail et les conditions de travail. Donc on en a beaucoup parlé à l'époque, je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'offrir une sorte de, non pas de réponse, mais de perspective romanesque à ça, et d'enquêter, mais à la façon d'un romancier. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien du travail, je ne suis pas médecin non plus. Donc j'ai simplement pris un enquêteur et je me suis dit, tiens, je vais le lancer dans une fiction. Donc un homme arrive un matin dans une gare, il descend du train, il arrive dans une petite ville où il y a l'entreprise et il est chargé d'enquêter au sein de cette entreprise sur une vague de suicides. Simplement, évidemment, ça ne va pas se passer comme il l'entend, puisqu'il ne va n'avoir de cesse d'avoir des barrages, d'avoir soit des mésaventures, soit des murs physiques, soit des murs mentaux, soit des silences, qui vont de plus en plus l'empêcher de faire cette enquête et l'amener aussi lui-même, finalement, dans un état de tension, de désespérance, de désespoir, d'inquiétude, qui vont peut-être aussi l'amener à commettre un geste fatal.
Il vit son enquête de l'intérieur, c'est assez...
De plus en plus, parce qu'au début, c'est un type qui ne se pose aucune question, sinon celle sur laquelle on lui a demandé de réfléchir. D'ailleurs, pourquoi il y a eu des morts. Mais il ne se pose pas de questions sur le système. Et peu à peu, par contre, le roman lui fait se poser des questions sur le système, parce que ce qui m'intéressait aussi, en tant qu'écrivain, là, c'était d'avoir le point de vue d'un laborantin, si vous voulez. C'est-à-dire de prendre une petite souris, de la mettre sous des projecteurs et de la regarder en lui mettant des tas d'embûches. Et vraiment, très très souvent, il y a ce point de vue qui est presque le point de vue de Dieu. C'est pour ça qu'on voit aussi à la fin du livre Dieu. Mais Dieu ne se souvient plus qu'il a créé le monde ni l'homme. Hein. Il est une sorte de balayeur sur un grand tas d'ordures, complètement Alzheimer. Et il ne se souvient même plus de ce qu'il a fait. Donc, en gros, il dit, c'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Donc c'est un Dieu un peu borgésien aussi, parce qu'il y a des nouvelles de Borges comme ça où... Je ne me souviens plus dans laquelle, un texte de Borges magnifique, où il dit finalement, nous ne sommes peut-être que les restes d'un rêve de Dieu. Nous n'existons peut-être pas. Et en l'occurrence, là, le Dieu qui est rencontré à la fin est un Dieu sans mémoire.
Je relisais le début du livre hier soir pour l'avoir bien en tête, dans ma chambre d'hôtel, alors que l'orage commençait à tonner.
C'est inquiétant, oui.
J'ai eu un moment...
Il faut éviter dans ce cas-là.
Ouais. Parce que la scène... Enfin, les premières scènes, donc c'est l'arrivée de cet enquêteur dans la ville. et sa découverte effectivement de son hôtel où effectivement il lui arrive quand même un certain nombre de misères.
Oui, et puis avant déjà d'avoir une chambre, il est soumis à un questionnaire infini, il se trompe parfois sur certaines questions, donc il faut reprendre à zéro hein. Et il n'en peut plus, il est fatigué, il est un peu enrhumé. Puis quand il finit par avoir la clé de sa chambre, il se rend compte qu'elle est quand même extrêmement étrange. Donc c'est quelqu'un qui va de Caribe en Scylla, mais c'est aussi un amusement littéraire dans la mesure où le roman très volontairement commence comme une scène simnonienne. Un homme arrive dans une ville, il descend dans un train, il va dans un café. Donc là, c'est vraiment très simnonien, même la température, la pluie qui se transforme en neige, l'atmosphère. On est dans un roman de Simenon. Là où ça commence à se détraquer, c'est quand il commande un grog au serveur et le serveur lui dit non, c'est pas possible. Alors l'homme lui dit mais vous connaissez pas, vous savez pas faire un grog. Ah si, mais c'est pas référencé dans la machine. Donc et là commence un peu cette entrée dans un monde stupide, mais il y a beaucoup d'exagérations, mais la scène du grog, moi je l'ai vécu je ne sais pas combien de fois, je cesse de demander des grogs dans les cafés maintenant, parce qu'on ne m'en sert plus, parce que ce n'est pas référencé dans les tarifs, donc ça devient complètement n'importe quoi. Ou alors des scènes comme quand il essaye d'avoir un sandwich et que la machine ne veut pas lui délivrer. Enfin,
ou la prise de courant placée n'importe comment.
Ou la prise de courant, oui. Ou alors, quand on veut se laver les mains, on prend du savon, après on essaye d'actionner l'eau, et ben non. Combien de fois dans le TGV je suis comme ça en sortant les toilettes et je fais sécher mes mains pleines de savon parce qu'il n'y a pas d'eau dans les toilettes.
Enfin, oui, mais
voilà, mais en accumulant tout ça, ça donne quelque chose de fantastique.
On vient pas vous faire les reproches après d'avoir arraché la serviette du mur.
On pourrait. Il n'y en a pas de toute façon. Mais ce qui était intéressant, c'est de prendre des éléments, si vous voulez, le fantastique, c'est quand même quelque chose de fascinant. Et en l'occurrence, là, il y a beaucoup de mésaventures qui, prises isolément, sont tout à fait réalistes. Simplement, c'est le cumul.
C'est l'accumulation.
C'est le cumul. C'est cet orage dont vous parliez dans votre chambre hier qui fait que quand on les assemble, ça donne une électricité, effectivement, qui devient, elle, fantastique.
Et justement, il y a vraiment... Alors, c'est un cocktail assez particulier parce que c'est à la fois extrêmement angoissant. Vous l'avez dit, en plus, ça part sur quand même un point de départ qui est un sujet dramatique. Et en même temps, ça finit par devenir presque comique parce que
oui,
ça devient du Jacques Tati presque.
Oui, c'est vrai que c'est un roman qui est très influencé par le cinéma, mais visuellement. L'art du pays Toraja, c'est très influencé par le cinéma sur des techniques d'écriture cinématographique, de montage, de prise de vue, de focale, de cadre. Dans l'enquête, c'est vraiment une influence qui est plus... Dans la matière ou dans les univers, vous parlez de Jacques Tati, on pourrait parler de Buster Keaton, on pourrait parler des frères Cohen, on pourrait parler du Brésil de Terry Gilliam. Il y a beaucoup de choses comme ça, effectivement, des références, des clins d'œil assumés à des grands films ou des grands maîtres du cinéma, de l'absurde ou du fantastique.
C'est un registre. Que vous dites, par exemple, que vous dit votre éditeur quand vous arrivez avec le manuscrit de l'enquête?
C'était encore Jean-Marc à l'époque, Robert, il a beaucoup aimé immédiatement, mais c'est quelqu'un, Jean-Marc avait compris, puis je pense mon éditeur actuel aussi, que je suis quelqu'un qui a besoin d'explorer des dimensions extrêmement différentes les unes des autres. Je ne sais plus, c'est Calvino à propos d'un de ses personnages, ou je ne sais plus dans quel livre, il dit on le reconnaissait parce qu'il n'écrivait jamais le même livre. Et voilà, donc il y a cette dimension... Moi, je n'aime pas refaire. Il y a des auteurs en tant que lecteur que j'aime lire parce que je sais que je vais lire le même livre, peu ou prou, hein, avec des variations légères, et on a plaisir à retrouver le même univers, la même technique, la même langue. Mais moi, quand j'essaye de faire des livres, ça ne me... c'est pas un métier, mais avec le temps, ça devient... Il y a des techniques quand même. C'est-à-dire que je pourrais écrire Les âmes grises 2, 3, 4, 5, 6... ça on sait faire, mais ça ne m'intéresse pas justement, donc ce qui m'intéresse c'est d'explorer des univers différents, et à partir du moment où se mettent en place les personnages et notamment le personnage principal ou le narrateur, le style vient avec aussi, la voix c'est une question d'oreille, donc ce qui fait que effectivement les livres que j'ai écrits sont assez peuvent être assez surprenants dans leurs grands écarts.
C'est vrai que l'enquête, il y a quelque chose d'assez mécanique dans la narration.
Ah oui. Puis en plus, comme vous l'avez dit, les personnages n'ont pas de nom. Quand ils sont à peine décrits physiquement, ils se ressemblent tous. C'est des clones. Hein. Ils sont petits, pas trop de cheveux.
C'est dit dès le départ d'ailleurs. On sait très bien qu'on le croiserait dans la rue, l'enquêteur, on ne le reconnaîtrait pas.
C'est des êtres gris, transparents. Rien n'est nommé. C'est l'entreprise avec un E. C'est le responsable. C'est le directeur, etc. Donc les êtres humains sont réduits à leur fonction. Mais malheureusement, vous savez comme moi aujourd'hui que c'est un peu le cas. on a quand même complètement déshumanisé le rapport au travail. Il est en proie, cet enquêteur, aussi à tous ces standards automatiques qui nous font perdre un temps fou et qui nous tendent comme des ressorts qui un jour vont lâcher. Donc voilà, c'était juste une captation un peu décalée d'un univers qui est quand même assez proche du nôtre.
Alors là, on était dans le fantastique, et puis alors, on va parler aussi des petites mécaniques, parce que là, on est quasiment dans la fantasy, pour le coup, ou pas loin.
Oui, et dans le fantastique aussi, c'est un ouvrage plus ancien, ça, parce que j'avais dû l'écrire en 2000 ou en 2001.
Oui, parce qu'on court de la nouvelle 2003, c'est marqué.
Des nouvelles, hein, vous voyez que ça a paru début 2003, mais c'était écrit un ou deux ans avant, oui. Ça, c'est vraiment des textes courts, des nouvelles, parfois à la française, donc avec une vraie chute qui contrebalance un petit peu l'histoire, qui est surprenante, mais pas toujours. Et puis le principe unificateur des textes, c'est cette formule de petite mécanique humaine, disons, hein, ce petit monde, hein, comme on désignait l'homme au moment baroque, ce petit monde qui fonctionne parfaitement, mais finalement qu'un grain de sable, une petite poussière suffit à détraquer. Ça peut être une rencontre, ça peut être la folie, ça peut être la maladie, ça peut être l'amour, ça peut être un événement tout à fait matériel. Et donc, il y a quelques destins comme ça qui sont... Alors, il y a aussi un voyage dans le temps, puisque les premiers textes, les fictions sont implantées, disons, dans une fin de Moyen-Âge ou un début de Renaissance, et puis ça va jusqu'à l'époque contemporaine.
On va dire, je le fais exprès, mais il y a encore beaucoup la présence de la mort. Sinon,
oui, mais ça, écoutez, c'est pas de ma faute, monsieur. Non, mais en forme de boutade, on pourrait citer le début du Tristan. Hein, voulez-vous écouter l'histoire d'amour et de mort? Enfin, si vous enlevez l'amour et la mort en littérature, il ne reste plus grand-chose. Hein. Donc, on est tous un peu logés à la même enseigne et on va chez le même fournisseur.
Là encore, justement, qu'est-ce que vous cherchiez dans le côté médiéval que vous avez voulu insuffler à certains des textes?
Ah, mais ça, c'est une passion, c'est la passion du pittoresque. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Moi, c'est un livre qui est très influencé par la peinture. Moi, la peinture tient une place très importante dans ma vie et dans mon imaginaire. Je me nourris énormément de l'univers des peintres. Et y avait donc beaucoup d'hommages à certains peintres dans ce livre, que ce soit Bruegel ou des artistes graveurs comme Piranèse. Il y a un texte ou deux sur Piranèse. Enfin, inspiré par Piranèse, la série des carceri, vous savez, les prisons, qui est des jeunes séries fantastiques. Donc là, il y a ces univers-là, et puis il y a le pittoresque de l'époque. Donc c'est toujours un plaisir quand on écrit de créer du pittoresque. C'est-à-dire qu'évidemment, on est dans le faux, bien sûr. Quand on écrit une histoire qui se passe au Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, on le fait avec des mots d'aujourd'hui, pour des lecteurs d'aujourd'hui, et on est quelqu'un d'aujourd'hui. En même temps, avec un mot ou deux, avec une tournure, on arrive comme ça à brosser un tableau qui peut être crédible, hein. Et ça, c'est un vrai plaisir de faire ça. Je pense aussi que c'est un recueil, j'y repense maintenant en parlant, qui doit beaucoup à un formidable ensemble de nouvelles de Pierre Macourlan qui s'appelle La chronique des jours désespérés, qui est un fantastique recueil de nouvelles. Macourlan est un auteur relativement sous-estimé en France, hélas, qui a un imaginaire foisonnant et qui a écrit écrit des textes fantastiques, notamment le Nègre Léonard et Maître Jean Mulin, qui est un très très beau texte comme ça sur le diable. Et puis il y a ce titre-là, La chronique des jours désespérés, que vous pouvez trouver en folio, qui est vraiment un très beau livre et qui a été un de mes livres de chevet longtemps. Et les petites mécaniques, c'était quand même très très redevable à cet univers de Macourlan.
C'est un recueil de nouvelles, c'est un exercice, j'imagine, qui est assez sensiblement différent de ce que peut être l'écriture du roman. Est-ce que c'est aussi un peu un défi pour l'écrivain que vous êtes de dire « tiens, je vais écrire un recueil de nouvelles »
Ça ne se pose pas en ces termes-là, c'est-à-dire que quand j'écris une histoire, je ne sais pas du tout ce qu'elle va être en termes de longueur. Alors parfois ça arrive, c'est vrai que je vais répondre un peu différemment à votre question. Généralement, je ne sais jamais où je vais. Et quand j'ai des histoires complètes qui me viennent en tête, comme ça, la plupart du temps, je ne les écris pas, parce que ça ne m'intéresse pas d'écrire ce que je connais. Donc je les laisse dans ma tête et elles disparaissent. Mais parfois, elles sont tellement... elles insistent. Et quand je vois qu'elles sont peut-être dans une forme brève, là, ça devient une nouvelle. C'est-à-dire que je pense que je n'ai jamais commencé l'écriture d'une nouvelle sans en avoir la fin, alors que pour un roman, c'est le cas. Je ne connais pas la fin, je commence. Donc c'est la brièveté de la nouvelle me permet de ne pas m'ennuyer aussi. Vous voyez, comme je connais la fin, bon, voilà, c'est court, c'est ramassé. Mais c'est une technique différente aussi, parce que c'est vrai que c'est, on va à l'essentiel. Hein. J'essaye aussi d'aller à l'essentiel dans les romans, mais là, il y a une forme lapidaire qui est assez excitante de pouvoir créer comme ça une histoire en une page, en deux pages. Alors, c'est le lieu peut-être pour raconter une anecdote. Pendant un an et demi, là, mais j'arrête parce que j'ai vraiment plus le temps, le magazine littéraire m'a confié la chronique de la littérature classique. Donc pendant un an et demi, pendant tous les mois, je faisais un grand article de fond sur un classique. Et puis, il y avait un volume de Ray Bradbury, d'Asimov. Qui reparaissait il y a quelques mois. Là, je me dis, tiens, je vais faire un grand papier sur la littérature de genre, c'est intéressant. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que c'était donc des nouvelles qui avaient paru dans différentes revues. Et puis, à chaque fois, Asimov les introduisait avec 3-4 mots. Et c'était odieux. Enfin, le personnage m'est apparu tellement odieux. Puis bon, j'ai lu un peu le texte, ça me paraissait sans grand intérêt, la plupart des textes. Mais il disait, voilà, cette nouvelle-là, je l'ai écrite parce qu'il y avait le congrès, je dis un peu n'importe quoi, mais des dentistes de l'Iowa qui m'avaient demandé si je pouvais écrire un texte. Alors, ils avaient 3 000 $, donc je leur ai dit, pour 3 000 $, je peux vous faire 3 pages, ou tant de caractères. Donc, et ils parlaient d'argent tout le temps comme ça, et du rapport entre l'argent donné et la dimension du texte qu'il était capable d'écrire. Mais il avait aussi ce rapport absolument décomplexé à l'argent que les Américains ont, alors que nous, jamais un auteur français n'oserait dire ça, même s'il le fait d'ailleurs,
oui, voilà, peut-être.
Mais en tout cas, il s'en vanterait pas comme ça. Mais c'était assez curieux de voir que finalement, le métrage, comme on parle en cinéma, le métrage du texte était simplement, dans ce cas-là, chez lui, pour ces textes-là, chez Asimov, fonction de la rémunération.
On va finir cette partie de l'entretien menée par le lecteur privilégié que je suis sur ce coup-là, avec ce petit ouvrage, parce que là, en plus, on vient de parler de nouvelles, alors là, on est dans la micro-nouvelle même, quasiment,
ouais,
puisque le titre du livre que vous voyez sur la couverture est quasiment plus long que certains des chapitres présents à l'intérieur.
Il est plus long.
On va le résumer en l'appelant « De quelques amoureux des livres », parce que le reste, vous verrez, vous le lirez vous-même. On vous attend pas forcément. Alors, j'ai déjà posé la question sur d'autres thèmes. On vous attend pas forcément dans ce registre de la satire.
Oui, mais encore une fois, j'aime bien faire ce que je veux, faire ce qui me plaît. Et puis, c'est pas non plus une volonté de surprendre en se disant tiens, allez, je vais aller là où on m'entend pas. Non, ça correspond. On est tous pareils. C'est-à-dire que moi, je connais aucun être humain qui est monocorde. On a des tonalités, un chromatisme extrêmement complexe. Et puis, selon les moments. Vous savez, alors moi, on l'a dit quand même, j'ai écrit des textes qui sont quand même sur des thématiques graves, des livres durs, etc. Et quand les gens me rencontrent, ils me disent « Ah, c'est marrant, vous n'aurez pas cru... »
Si...
Ouais, ouais, ouais. On ne s'imagine pas que vous pourriez être léger, être drôle, rire, etc. Mais moi, je suis à la fois celui qui écrit « Les âmes grises », mais aussi une comédie comme « Parle-moi d'amour », qui était un pur vaudeville, un couple qui s'engueule pendant 1h30 sur scène. Et ça me plaisait beaucoup. Et là, j'ai encore de terminer une pièce qui est un peu du même ordre, parce que j'avais envie de rigoler moi-même et puis éventuellement de faire rigoler les autres. Donc, mais sur ce livre-là, c'est assez particulier. Il naît de plusieurs choses. Alors, de cet amour, quand même, des tons un peu plus légers ou sarcastiques. Et puis aussi du fait que, quand on peut le constater tous aujourd'hui, tout le monde écrit en France. Tout le monde écrit. C'est-à-dire que tout le monde est écrivain. On est 70 millions d'écrivains. Le numérique, et notamment l'Internet et les blogs, la possibilité de mettre en ligne les textes qu'on fait, de les partager, etc., a encore peut-être augmenté le phénomène. Donc, c'était une façon de se moquer de nous-mêmes. Moi, le premier, qu'est-ce qui fait qu'un jour, des êtres sont comme ça, persuadés qu'ils doivent écrire, forcément, qu'ils ont une œuvre en eux, qu'il faut la partager, qu'il faut la publier, etc. Donc là, j'ai rassemblé 60-70 destins de personnes qui veulent absolument écrire, mais qui sont un peu contrariées, justement.
Il y a un grain de sable dans la mécanique,
voilà,
à un moment donné.
Encore une fois.
Il y a des choses très drôles dedans, parce qu'il y a des choses, évidemment, totalement imaginaires, enfin, en tout cas, inspirées peut-être de faits réels, mais...
Non, non, il y a beaucoup d'imaginaire et puis un petit peu de...
Puis il y a plein de clins d'œil à
voilà.
l'intérieur.
Il y a des petits clins d'œil.
Il y a...
ouais.
Il y en a un Jésus, il y en a un...
Ouais. il y en a, oui, c'est variable. Il y en a un Jésus, il y en a un Voltaire, il y en a un Radovan Karadzic.
Voilà, c'est ça. Il y a une galerie de portraits encore assez... Il y a un côté La Bruyère un peu moins sérieux.
Oui, voilà, mais c'est le comique, enfin, c'est vrai que... Le comique, enfin on le sait, quand il est manipulé par des immenses auteurs comme Molière, permet sinon de corriger les mœurs, en tout cas de les pointer, les bonnes et les mauvaises, et puis de s'en moquer. Je crois qu'il y a toujours une forme de gravité et de profondeur dans le comique. Donc ce qui est intéressant, c'est de laisser passer l'écume du rire et puis de voir parfois ce qu'elle cache derrière. Mais en l'occurrence, l'ouvrage, il était fait vraiment pour moi le premier m'amuser, puis essayer d'amuser un peu les autres.
Et celui qui, à force d'utiliser constamment des pseudonymes pour publier ses livres, perdit jusqu'à l'usage de son nom et ne parvint plus à se souvenir de lui quand il s'agit, à l'occasion d'un banal contrôle de police sur le périphérique, de décliner son identité.
c'est génial.
Voilà un peu la teneur de cet ouvrage, avec une particularité, c'est que vous redonnez ces lettres de noblesse à l'Esperluette.
Ah oui, ben ça, il faut saluer mon éditeur, surtout, c'est pas... Parce que quand j'ai terminé ce texte un peu atypique, je me suis dit, à qui je vais le donner? J'adore faire des livres chez des petits éditeurs. Vous aviez tout à l'heure, on avait Ancrage & Co, là, un livre chez Roland Chopard, de Quelques fins du monde. Je fais des livres avec Olivier Brun à La Dragonne, ou chez Nicolas Chaudin. Et là, les copains de Finitude, qui sont Emma et Thierry Boisley, qui sont dans le Bordelais, font des très, très beaux livres, des objets-livres que j'aime beaucoup. Et donc, je me dis, tiens, eux, ça va bien leur correspondre. Ils arriveront à trouver une jolie forme, et notamment l'usage de ce signe typographique qui, effectivement, est moins utilisé, mais qui, là, démarre chaque histoire.
Tous. Et alors, un conseil, si vous lisez ce livre, lisez-le bien jusqu'à la dernière page, mais vraiment la dernière page.
Oui, sur l'achevé d'imprimer.
Parce qu'il y a un clin d'œil, oui, à un endroit où on
l'éditeur
n'est pas
forcément
bien trouvé. Donc voilà, pour un petit peu ce tour d'horizon, et maintenant je vais vous donner à vous, public, la parole. Si vous avez des questions à poser à Philippe Claudel, n'hésitez pas, je viens vous rejoindre avec le micro, s'il veut bien marcher. Ah, je suis pas sûr qu'il marche. Si.
Est-ce qu'il marche? Oui. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Philippe Claudel? Non?
Eh bien, je m'en vais.
Bon, écoutez, oui, puisque c'est comme ça. Allez-y, profitez-en.
Est-ce que les voyages vous inspirent des histoires? Parce que là, vous avez fait deux livres que je connais avec comme base l'Asie. Est-ce que, par exemple, l'Afrique vous attirerait?
Alors, j'ai la chance de voyager beaucoup... parce que les livres sont beaucoup traduits, puis les films voyagent beaucoup. Donc c'est des faux voyages dans ce cas-là, parce que je n'ai jamais le temps de me poser véritablement. C'est plutôt des chambres d'hôtel, des aéroports, des journalistes, un peu les mêmes questions, etc. Donc c'est des déplacements plutôt que des voyages. L'Afrique, alors si vous parlez de l'Afrique noire, c'est vraiment ma terra incognita. C'est vraiment un lieu que je ne connais pas. Que je ne connais finalement que par le biais de la littérature, de la poésie, un petit peu le cinéma. Mais c'est pas du tout... et je peux pas dire non plus que j'ai un tropisme africain. C'est-à-dire que autant le Maghreb m'a fasciné, je suis beaucoup allé dans le Maghreb, en Afrique du Nord. Mais c'est vrai que l'Afrique noire, je ne la connais pas. Et j'ai curieusement peu envie de la connaître, alors que je suis beaucoup plus attiré par l'Asie du Sud-Est, l'Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord aussi. Ou des régions d'Europe, enfin l'Europe dans son intégralité, mais plutôt les régions septentrionales. Mais c'est vrai que naturellement, si je puis dire, mon goût et mon imaginaire me portent assez peu là-bas. C'est pour ça que je suis assez heureux de lire les grandes voix, que ce soit Senghor, si on parle de classique, ou alors des auteurs contemporains qui me parlent de l'Afrique. Notamment, j'ai beaucoup aimé le dernier livre de Paul Constant, qui, elle, a passé son enfance en Afrique. Donc il y a aussi cette espèce de matériaux identitaires et affectifs. Et ça, je suis toujours heureux de rencontrer soit des auteurs qui, à un moment, découvrent l'Afrique et m'en rendent compte. C'était le cas de Patrick Deville dans un livre il y a quelques années, ou des auteurs africains. Mais moi-même, c'est vrai que j'ai même pas de projet, vous voyez, qui m'emmènerait là-bas.
J'ai posé cette question parce que dès que vous avez parlé de ce livre-là, Le Pays Toraja, ça m'a fait penser aux griots, donc ceux qui racontent les histoires, qui les créent, au Sénégal justement, qui n'avaient pas leur place dans le village, au cimetière, et qu'on enterrait sous les racines d'un baobab. Parce qu'il y avait un baobab.
Oui, puis l'autre jour à Québec, j'avais eu un grand débat avec Mabankou, qui racontait d'autres histoires aussi. Et puis Paul Constant, dont je parlais, me parlait de certaines pratiques qui existaient. Par exemple, où on ne plaçait pas l'enfant mort dans l'arbre, mais le placenta de l'enfant dans les arbres. Donc c'est vrai que ça me fascine beaucoup. C'est-à-dire que après, il faut faire des choix dans la vie. Mais vous voyez, si j'avais le temps aujourd'hui, si j'avais un an, je me plongerais vraiment vers des travaux anthropologiques, ethnologiques, pour aller à la recherche justement de toutes ces pratiques sur le corps, sur la mort. Parce que ce que vous me dites là, ou ce que d'autres m'ont dit, c'est vrai que ça me titille et j'ai envie d'en savoir plus, quoi.
Voilà, on a parlé pas mal de vos livres, mais moi j'aimerais parler aussi cinéma. J'ai beaucoup aimé vos films, notamment le dernier, Enfance. Et je voulais savoir un petit peu par rapport à ce film, si c'est bon, un peu les souvenirs d'enfance à Dombasle. Et puis la deuxième question, ce serait, est-ce que vous avez des projets de cinéma ?
Alors, Une enfance, c'est un film qui me tenait beaucoup à cœur parce que justement j'avais envie de filmer Dombasle depuis longtemps et de filmer l'enfance. Et je me suis mis à inventer une histoire qui me permettrait de conjoindre les deux. Donc le gamin, qui est le personnage principal de l'histoire, n'est pas moi, dans la mesure où moi j'ai eu la chance de vivre dans un milieu beaucoup plus équilibré que le sien, puisque ce qui m'intéressait c'était de montrer une enfance aussi fracassée et volée, une enfance qu'on essaie de dérober à cet enfant qui veut la vivre, on fait en sorte qu'il soit plus adulte qu'il ne devrait l'être à son âge. Par contre, tous les lieux où il évolue, où il se sent bien autour de cette maison, sont des lieux qui se rapportent fondamentalement à mon enfance à moi. Hein. Donc c'était un plaisir, si vous voulez, de filmer tous ces lieux de Dombasle où j'ai grandi, où je vis encore aujourd'hui, et puis de la réexplorer, cette enfance ou cet univers, avec les yeux et la sensibilité et les écorchures d'un gamin qui, lui, n'était pas moi. Quoi. Et pour la deuxième partie de votre question, oui, là je suis en train de préparer un autre film que je devais tourner à l'été 2017. Mais là, il y a une grosse commande de France Télévisions sur une série que je leur avais proposée qui semble les intéresser. Donc il faut que je me mette en écriture. Et si ça aboutit vraiment, ce sera aussi un tournage l'année prochaine de 6 ou 8 épisodes. Donc il va falloir que je vois comment je peux conjuguer le long métrage et la série. Il faudra peut-être que je repousse le film. Voilà. Mais c'est pas, le film ne serait pas du tout dans la région. Même si ça fait des années que je rêve de tourner dans les Vosges, je n'arrête pas de le dire. Mais l'autre jour, quelqu'un du conseil général vosgien m'a appelé. Elle m'a dit, je suis là, si vous voulez, pour tourner dans les Vosges. On m'a dit que votre prochain film serait dans les Vosges. Je dis, non, malheureusement, non. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Mais non, mais j'en parle souvent dans le cinéma parce que je trouve que c'est un département et des décors qui sont sous-exploités dans le cinéma français. Hein. Alors, il y a des tas de raisons à ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que les Vosges offrent quand même des paysages extrêmement variés. Mais à chaque fois que j'imagine un film dans les Vosges, moi, c'est soit un film fantastique, soit un film d'horreur. Hein.
c'est pour être au Fantastica, en fait, que vous faites ça.
Non, mais je sais pas. Mais les forêts sont des lieux quand même extrêmement fois...
C'est pas Pierre Pelot qui nous démentit. Hein.
Exactement. Ouais, c'est pas le Pelot qui va dire le contraire. Mais c'est vrai que ça peut être extrêmement anxiogène, ça peut être très mystérieux. Mais en tout cas, il y a des univers. Oui.
Ben voilà, on arrive au terme de cet entretien avec Philippe Claudel que je vais vraiment sincèrement remercier.
Ben c'est moi qui vous remercie.
Et je pense qu'on doit vous retrouver maintenant sous la bulle pour une séance de dédicace.
Peut-être, mais très rapide à ce moment-là.
Très rapide.
Mais,
ouais. Bon. Vous me dites. Vous me dites. Enfin bon. Oui.
Voilà. Merci.
Merci
à vous.
En tout cas.
Merci à vous. Merci à vous toutes et à vous tous. Et bonne fin de journée.
Merci beaucoup.